quelle raison Jésus est venu sur terre? C'est ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Poser la question de cette manière peut nous conduire aussi à d'autres réponses. Mais je vais le formuler de trois manières. Pour quelle raison Jésus qui est Dieu, n'est-ce pas? Il a été Dieu de tout temps. Pour quelle raison Jésus qui est Dieu s'est fait homme? On fête la fête de Noël, mais on ne cherche pas à comprendre pour quelle raison. Et surtout que le monde dans lequel nous vivons est composé de gens qui ne croient pas en Dieu, ce qui fait que c'est leur version qui semble privilégiée que la version chrétienne. Il faut que nous revenions à l'essentiel. Je vais reformuler la question encore autrement. Pour quelle raison Jésus qui est la parole s'est fait chair? Pourquoi la parole est devenue homme? Alors nous allons faire trois lectures. Et je vais vous en donner quelques éléments. Et on va examiner lorsque l'ange Gabriel était venu annoncer la naissance de Jésus et que ce même ange, quelques jours plus tôt, s'est adressé à Zacharie pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste, parce qu'on ne peut pas dissocier la venue de Jésus sur terre et la naissance de Jean-Baptiste. C'est lié. Et nous allons voir l'attitude des uns et des autres. Et ça nous inspirerait beaucoup. Alors faisons la lecture. D'abord, dans un premier temps, Isaïe 9:6. C'est cette lecture que vous connaissez bien. Isaïe d'abord. Ah, tout à fait. Alléluia. On peut reprendre un peu en dessous, au-dessus. Comme ça, on comprend bien le contexte. Alors, j'y vais. Il s'agit de Jésus, que Esaïe a prophétisé 700 ans avant la venue de Christ. On dira que 700 ans, c'est beaucoup, mais ce n'est rien, parce que la première prophétie réside dans Genèse, chapitre 3, verset 15. C'est-à-dire, depuis quand l'homme avait péché, cette prophétie est déjà en route dans la volonté de Dieu. Renforcer la venue de Jésus, pour renforcer la souveraineté, voilà, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. On va s'arrêter là. Là, ce n'est pas rien. Ce n'est pas l'annonce de quelqu'un d'ordinaire. C'est l'annonce d'une personnalité qui a un pouvoir. Et il n'est pas venu simplement pour faire une promenade de santé sur la terre des hommes. Il est venu chargé d'une mission, laquelle, et nous le verrons tout à l'heure. Hébreux chapitre 10. Quand Dieu a posé la question dans le ciel, qui enverrai-je? Aucun ange n'était prêt pour accomplir cette mission. Il regarde à gauche, à droite, et voilà, Jésus répond. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as fait quoi? Tu m'as formé un corps. Le corps vit après. L'esprit est avant. Si tu m'as formé un corps, c'est que j'existais déjà pour exister dans ce corps-là. C'est bon, là, vous me suivez? Voilà. Voilà un des mystères de la volonté de Dieu. Maintenant, nous allons revenir dans le Nouveau Testament, ce texte que nous connaissons bien. Je vais choisir le texte de Luc. Pourquoi Luc? Luc, quand vous lisez la généalogie de Jésus, il vous communique jusqu'à Dieu le Père. Faites l'exercice, vous allez voir. Et lorsque vous lisez la généalogie de Jésus dans Matthieu, Matthieu remonte Jésus jusqu'à Abraham. C'est pour ça que Matthieu le décrit comme fils de l'homme, là. Et Luc le décrit comme fils de Dieu. Et comme Jésus-Christ, il est homme et Dieu, si vous joignez les deux, vous avez la personne de Christ, à la fois homme et à la fois Dieu. Et nous allons le lire. Luc, chapitre 1, on va lire du verset 6 jusqu'au verset 37. Voilà, je lis la totalité et je vous fais la synthèse. Il s'agit de Zacharie, qui exerce comme sacrificateur dans le temple. Normalement, chacun a ses jours. Mais cette fois-ci, ils ont fait un tirage au sort, c'est retombé encore sur lui. Bon, c'est la volonté de Dieu, il y va. Mais Zacharie a épousé Élisabeth. Pendant des années, ils ont prié pour avoir un enfant, ils ne l'ont pas eu. Jusqu'à un âge avancé, comme Abraham et Sarah. Et voilà que, avant la naissance de Jésus, un événement s'est produit. Et je le lis donc. Tous deux, Élisabeth et Zacharie, étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur et pour y offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors, en prière à l'heure du parfum. Alors, lui apparut un ange du Seigneur, il s'agit de l'ange Gabriel, debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte. » Écoutez bien ce que l'ange dit. « Sois sans crainte. » Attends, retourne un peu en arrière. Je suis où là? retourne un peu en arrière, voilà, je suis perdu là. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. » C'est pour dire que parfois, lorsque nous faisons de prières, avant d'avoir vu les résultats, la prière a déjà été dans la tête de Dieu. C'est pourquoi la Bible a dit que lorsque nous prions, nous devons croire au fond de notre cœur que Dieu nous a déjà exaucés et nous verrons la matérialisation. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Alors là, il n'a pas besoin de Pentecôte hein, pour être rempli de l'Esprit. Le petit Jean-Baptiste, là, il n'est qu'une matrice, une masse informe. Il est déjà baptisé du Saint-Esprit. Il n'a pas besoin d'attendre Pentecôte. L'Esprit de Dieu est déjà en lui. Il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants. On continue. Et les rebelles à la sagesse des justes et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est son rôle. C'est de préparer la venue de Jésus. Alors, écoutez la réponse de Zacharie. C'est là où ça commence à devenir intéressant. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux, et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répond, « Moi, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet. Tu ne pourras parler jusqu'au jour où cela se produira, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Un instant. J'ai reçu ce texte parce que je l'ai vécu moi-même, ce mutisme. J'ai été attaqué par une grippe où un matin, quand je voulais parler à ma femme, ma voix ne sortait plus. Je ne faisais que des gestes. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Et c'était comme ça que l'idée de ce texte m'est venue pour partager avec vous. On continue. Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attardât dans le temple. À la sortie, il ne put parler, il comprit qu'il avait une vision dans le temple et il se mit à faire des signes et il demeurait muet. Lorsque les jours furent achevés, il retourna dans sa maison. On va accélérer pour aller beaucoup plus vite. Quelques temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte et elle se cacha pendant 5 mois en disant, voilà ce que le Seigneur fait pour moi au temps où il a décidé d'enlever ce qui était ma honte parmi les hommes. Au 6e mois, l'ange Gabriel à nouveau fut envoyé dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, et suivit ça très bien, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Le nom de la Vierge était Marie. Elle entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que cela signifie, cette salutation. Un ange la salue et elle devient enceinte. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, son nom humain. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de... » Alors, vous reliez le mot trône avec le texte que nous avons lu avant Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Il gouvernera. Il régnera sur la maison de Jacob. Éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, souvenez-vous de ce que Zacharie a répondu. Marie va répondre, mais regardez le terme de sa réponse. Comment cela se produira-t-il, puisque moi, je ne connais pas d'homme? Et l'ange lui répond, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celui qui était appelé stérile, dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ce texte, qui sont parfois des codes de langage. Le récit des événements dans notre vie comporte toujours des clés qui ne peut être compris que par celui en qui tu mets ton esprit et qui est la sagesse du ciel. Alors Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Amen. Dieu a tout créé. Il a tout créé pour un but bien précis et bien bienveillant. Ce que Dieu avait prévu dès le commencement, c'est une humanité qui doit vivre en relation avec lui, sous son autorité, avec harmonie, avec le Père. Dieu a créé toutes choses. Et après, il a créé l'homme, son chef-d'œuvre, en dernier lieu. On a l'impression que les complexités qui avaient précédé la création de l'homme se retrouvent dans l'être humain. J'avais reçu, il y a 2 jours de cela, une exhortation sur le corps humain qui présente le lien avec Dieu. Il est en train de faire allusion aux côtes, son nombre de 12, aux vertèbres, pour certains qui sont au nombre de 33, et il faisait un peu allusion à l'âge de Jésus, l'âge auquel il était décédé. On dit parfois dans le temps médical que quelqu'un a un malaise vagal. Et ça se trouve au niveau du cœur. Et il a essayé de faire un lien avec les choses. Bon, je me dis que ça, c'est la sagesse humaine. Mais il ne demeure pas moins que l'être humain conçu par Dieu renferme un mystère dans son fonctionnement. Vous conviendrez avec moi. Même notre sang. Quand vous êtes blessé, vous allez voir que le sang va se réunir pour créer une sorte d'hématome pour empêcher que les microbes pénètrent dans tout le corps.
Ce n'est pas vous qui le décrétez. C'est ainsi. Quand vous êtes blessé
et que vous êtes écorché sur votre peau, vous allez voir, parfois sans le soigner, il y a un phénomène de la régénération qui se met en route. Et votre corps revient dans son état initial. Mais cependant, lorsque le péché est venu toucher notre corps, notre corps s'épuise dans son fonctionnement. C'est pourquoi nous vieillissons. Quand on vieillit, c'est le vieillissement des cellules. Cependant, si ce corps qui est vendu au péché peut mourir, mais ce corps n'est pas notre vraie nature. Notre vraie nature, c'est celle qui est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça que Jésus va faire les deux. Il va prendre le corps humain dans lequel il va mettre l'Esprit de Dieu, qui est un esprit éternel. Parce que Jésus a toujours existé de tout temps. Et quand le temps était marqué par Dieu, le monde dit que Jésus est né. Quand on dit que Jésus est né, c'est comme s'il a un point de départ à la naissance, n'est-ce pas? Mais Jésus a toujours existé, il a pris la forme humaine. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 10, verset 5, Dieu, tu m'as formé un corps. C'est que même un enfant, les premières cellules dans le ventre d'un enfant, c'est déjà un être humain. La loi des hommes est en train de vouloir le qualifier de choses pour pouvoir mieux l'éliminer. Quand nous lisons Somme chapitre 139, nous voyons comment est désigné les fœtus qui sont dans le ventre d'une femme. Et ainsi, un être humain est déjà un esprit avant de baigner et prendre un corps. Et Jésus également, esprit de Dieu, est venu prendre un corps. Pour quatre raisons, que je vais aller vite, et je vais insister sur la quatrième. Le premier, c'est que Jésus est venu pour montrer aux hommes qui est Dieu, le Père. De tout temps, les gens ont adoré Dieu. Mais Dieu, il est esprit, personne ne l'a vu. Mais le temps indiqué est venu pour que Jésus puisse montrer qui est Dieu. Parce que celui qui veut montrer Dieu, c'est celui qui le connaît. Or, Jésus connaît bien le Père. La Bible dit que le Père connaît le Fils, et le Fils connaît le Père. Et il montre le Père à qui il veut bien le montrer. Et Jésus est venu pour montrer le Père qui est Dieu. Et comment est Dieu. Montrer qui est Dieu est une chose. Mais montrer comment est Dieu, c'est autre chose. Ce sont ses qualités morales. En réalité, comment est Dieu? Dieu, il est amour. Et l'amour absorbe tout. L'amour donne tout. L'amour n'existe pas, l'amour de Christ. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père. C'est que dans l'humanité, il y a des gens parfois qui manquent de mettre dans leur cœur ou alors d'intégrer la qualité qu'un père peut avoir. On dit de cela, ces personnes développent un esprit orphelin, comme Philippe. Philippe a dit à Jésus, mais montre-nous le Père. Jésus a dit, oh, ça fait longtemps que je suis avec vous. Tu ne sais pas que je suis avec vous. Et tu oses encore me demander, montre-nous le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà le plan de Christ. Comment est le Père? Le Père est l'amour. Deuxièmement, Jésus est venu pour libérer les hommes du péché, du monde et de Satan et de leur offrir le pardon de Dieu. Car par la désobéissance d'un homme, le péché et la mort s'est étendu sur tous les hommes. Et par l'acte d'obéissance de Jésus-Christ, il a ramené plusieurs hommes à la justice et il fait d'eux les enfants de Dieu. Troisième raison. Jésus est venu pour offrir aux hommes la possibilité d'être enfants de Dieu. Parce que lui, s'il a été enfant de Dieu, si nous venons par lui, nous avons le même statut que Jésus-Christ. Parfois, notre esprit a de la peine à comprendre, mais Dieu nous regarde au même titre qu'il regarde Jésus, malgré notre imperfection. Et ça, c'est très rassurant. Alors, Dieu a choisi Jésus pour un plan bien précis, pour apporter le gouvernement de Dieu sur la terre des hommes. C'est pourquoi la Bible a dit que ce plan que Dieu a élaboré et que Dieu achèvera à la fin des temps consiste à réunir toute chose qui est dans les cieux sur la terre sous un seul chef, et ce chef est Jésus. Et pour faire la projection finale, ce qu'est Jésus pour veiller, Jésus est venu pour faire toute chose nouvelle, créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, voir le plan divin. Il est venu tout effacer sur la face de la terre et pour rétablir l'originel. Et j'insiste. Souvent, quand on vient dans le Seigneur, on dit que, ah tiens, le Seigneur va nous apporter quelque chose de nouveau. Nouveau par rapport à quoi? Non. Il y avait quelque chose que Dieu avait commencé à faire et qui s'est interrompu à cause du péché. Et donc, Jésus, quand il vient nous reconnecter à là où nous avons débranché. Donc, il est venu pour ramener l'originel. Je ne dis pas original. L'originel, c'est qui était au début que le péché a arrêté. Voilà la mission que Dieu a choisie pour accomplir en nous envoyant Jésus sur la terre des hommes. Et ceci nécessite de notre part la foi. Car de tout temps, Dieu a toujours collaboré avec l'homme. Il aurait pu faire sans. Dans le jardin d'Éden, Dieu a toujours collaboré avec l'homme. Et dans cette histoire de rétablissement, Dieu va collaborer avec l'être humain. Et dans ce chemin de collaboration, nous allons examiner la personnalité de Zacharie et de Marie face à l'annonciation de l'ange. Donc, à Zacharie, l'ange intervient, le même ange. Nous avons vu leur qualité morale. C'est des gens qui observaient à la lettre la parole de Dieu. Zacharie est sacrificateur. Sous-entendu, il connaît la loi. Il connaît l'histoire biblique. Il a dû lire l'histoire de Sarah et Abraham, n'est-ce pas? Il a dû lire l'histoire de Rachel et de Jacob. Il a dû avoir lu l'histoire au moins de la maman de Samuel. Ces femmes difficiles qui n'ont pas pu avoir d'enfants, à qui Dieu a fait grâce. Comment tu peux devenir le sacrificateur, servir dans le temple, sans avoir connu toute cette histoire? Voilà pourquoi l'ange est exigeant vis-à-vis de lui. Quand l'ange est venu lui annoncer que voilà, Dieu a trouvé grâce à ses yeux et que ta femme Élisabeth va devenir enceinte, et il commence à dire, mais autrement dit, on parle le langage courant. Donne-moi une preuve. Donne-moi la preuve que ce que tu dis est vrai. Ah bon? À quoi reconnaîtrais-je? Tu ne reconnais pas, toi. L'ange était fâché. Il lui a dit que moi, je suis l'ange Gabriel. J'assure le service devant la face de Dieu et Dieu m'a envoyé pour venir t'annoncer une bonne nouvelle au lieu de la prendre et tu me demandes de te donner une preuve. Voilà. Tu vas rester, ta bouche va être fermée. Tu ne parleras pas. Je t'assure, le Seigneur est merveilleux. Ah oui. On ne discute pas avec Dieu. Il avait eu crainte. Il avait eu peur. Mais sa peur l'a conduit, je ne dirais pas l'incrédulité, le doute, parce que je fais la différence entre l'incrédulité et le doute. L'incrédulité, elle est diabolique, parce que le mot, c'est ne pas croire, ne pas avoir la foi. Mais le doute, c'est quoi? Le doute, souvent, il flotte dans l'ignorance. Et lorsqu'il y a des éléments d'information qui viennent combler mon ignorance, il consolide ma foi. Il connaît la parole de Dieu, Zacharie. On ne pourrait pas dire que c'est l'incrédulité. C'est le doute. Et ça, devant l'ange, c'est impardonnable. Et comme l'homme ne peut pas empêcher l'accomplissement du plan de Dieu, le plan de Dieu va s'exécuter, mais lui, il va avoir la bouche fermée. Parce que Dieu avait un plan. Le même ange se déplace, 6 mois plus tard, pour aller voir une jeune fille de 17 ans. Et qui va lui annoncer qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et qu'elle va tomber enceinte et qu'elle va donner naissance à un enfant. Oh, elle ne connaît rien de la vie. Elle est juste fiancée à un jeune homme, l'agriculteur, qui chaque matin se réveille et aller chercher son miel et aller chercher son truc et revient pour s'occuper de sa famille. Et voilà, l'ange apparaît pour lui dire que tiens, tu vas devenir enceinte. C'est quoi cette histoire-là? Elle était troublée. Mais son trouble l'a conduit dans un état d'humilité. Elle va s'interroger, mais sainement. Comment cela pourrait être possible, cher ange? Parce que généralement, moi je suis né parce que mon papa est allé vers ma maman et il m'a donné naissance. C'est de même pour mon mari et mon futur fiancé, Joseph. Tous ces hommes qui existent sur la terre là, il n'y a pas aucun qui est sorti d'un arbre. Voilà, ils sont allés sortir d'une femme et qu'il fallait qu'un homme aille vers une femme. Pour... Mais comment cela est possible, moi qui n'ai pas connu d'homme là? L'ange va lui dire, ne t'inquiète pas. Le souffle de Dieu sera sur toi et tu vas concevoir. Et à cet enfant, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera le fils de Très-Haut. Le gouvernement du monde reposera sur ses épaules. Et ce qui est intéressant, le verset que j'avais escamoté et qui n'était pas dedans, au verset 38, il est dit, qu'il me soit fait, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et l'ange va lui dire, rien n'est impossible à Dieu. Voilà une réalité de la parole de Dieu devant laquelle on peut avoir des attitudes assez différentes. Une annonce rencontre le doute et l'autre rencontre la foi. La venue de Jésus est quelque chose de nouveau que Dieu veut faire pour l'humanité. Et vous savez que lorsqu'on accepte Christ dans notre vie, tout devient nouveau. Notre manière de voir les choses ne sont plus pareilles. Même si les hommes nous voient avec la même configuration physique, ce qui est à l'intérieur de nous est l'Esprit du Seigneur. La différence se fera. L'Esprit qui est en nous, c'est cet Esprit qui va nous amener à la glorification. Jésus est mort, il est ressuscité, il est dans un corps glorieux. Nous aussi, en recevant Jésus, nous allons connaître la même trajectoire. Et Jésus a épousé une forme humaine, il s'est identifié de manière identique à nous. À nous. S'il était venu que du ciel, sans passer par une femme, il n'aurait pas connu la trajectoire que connaissent les hommes. Et Jésus a traversé tout ça jusqu'à la croix. Pas que pour sauver les hommes. Parce que la première création que Dieu a créée est tombée sous le péché à cause de Adam et Ève. Et donc Dieu veut refaire toute chose nouvelle. Et donc pour refaire toute chose nouvelle, il va commencer par le sommet. Et le sommet de la création, c'est l'être humain. Et c'est pour ça que Jésus est venu du ciel, pour venir nous chercher là où nous sommes, nous laver, nous purifier, pardonner nos péchés, nous donner un nouveau statut, celui d'enfant de Dieu. Voilà la raison de Jésus-Christ, pour ainsi dire sa venue sur la terre des hommes. Quand vous aurez croisé les amis qui vous diront que nous fêtons la naissance de Jésus, déplacez le débat. Vous dites que naissance, pourquoi ? Moi, je suis chrétien, Jésus est venu. Et il va vous poser la question pourquoi le terme est venu. Ça vous donnerait l'occasion de lui rentrer dedans. Cette fête a pris une connotation différente. Et comme les gens non chrétiens sont beaucoup plus nombreux que nous, c'est la voie du mensonge qui est privilégiée. Au point que même nous, les chrétiens, nous oublions pour quelles raisons nous fêtons la fête de Noël. Ça nous est égal. Jésus n'est pas né le 25 décembre, peu importe la date. Mais tous les historiens sont unanimes qu'un homme exceptionnel est venu sur la terre des hommes. Même les mages. Les mages qui ne connaissaient pas le Seigneur. Ils avaient l'habitude de travailler les astres. Ils avaient l'habitude de faire de l'horoscope. Dans le livre de King James, on le dit les sages. Ils connaissent ce qui se passe dans l'atmosphère. Et ce jour-là, un ange particulier... Et je dis qu'un ange, une étoile particulière est apparue. Son éclat est différent des autres éclats. Et souvent dans la cosmogonie, c'est-à-dire la manière de voir le monde, quand un tel événement se produit, c'est qu'il y a un grand personnage qui va apparaître dans l'histoire. Et l'ange, encore une fois de plus, est apparu pour leur dire qu'attention, dans la ville de David, il est né un sauveur. Ils n'ont pas hésité. Ils n'ont pas hésité. Ils ont fait des kilomètres, ils se sont retrouvés pour aller lui rendre visite avec joie. Paix et joie dans le ciel, pour ceux qui ont accueilli une telle nouvelle. Et quand Hérode a appris ça, Hérode était content. Hérode avait dansé. En tant que roi, il avait fait un banquet pour dire que tiens, il y a un nouveau roi qui est venu. Venez, nous allons danser pour célébrer sa naissance. Bien au contraire. Bien au contraire. Hérode, que l'image du diable, il n'est pas du tout content. Que Jésus vienne délivrer les hommes. Bien au contraire, à cause de Jésus, beaucoup d'enfants étaient morts. Parce qu'il a tenté à la vie de Christ. Mais encore un ange est intervenu pour dire à Joseph, allez, prends l'enfant, fouille en Égypte. Alors souvent, on met l'accent beaucoup plus sur Marie, mais on oublie de mettre l'accent sur Joseph. Alors permettez-moi de faire un petit zoom sur Joseph. Joseph, quand il avait vu sa femme enceinte, il a dit, hé, qu'est-ce qui s'est produit là ? Et comme elle aimait la jeune fille, elle ne voulait pas qu'elle soit livrée au vindicte. Elle voulait discrètement se séparer d'elle. Et quand l'idée était arrêtée dans sa tête de se séparer de Marie, l'ange rentre encore en action. Pour dire, attention Joseph, ta femme est devenue enceinte. Elle ne t'a pas trompé. C'est parce qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et parmi toutes les femmes, Dieu l'avait choisie pour faire naître le roi du monde. Alors, ne la renvoie pas. Il faut que tu sois pour elle un appui, un protecteur, et pour l'enfant aussi. Lorsque l'ange lui a annoncé ça, un esprit de paternité est rentré en Joseph. Cette fois-ci, il n'hésite pas, il prend son rôle de père en main. L'Esprit de Dieu est rentré en lui. Il va s'occuper de Jésus comme il fallait. Lui enseigner tout ce qui était nécessaire. À un moment donné, on ne parle pas de lui. Si on ne parle pas de lui, c'est qu'il est mort. Et comme il est mort en Orient, c'est le fils aîné qui prend la relève. Et qui était le fils aîné de cette famille? C'est Jésus lui-même. Il est allé jusqu'au bout. Donc nous voyons l'humanité de Christ dans tous les détails de notre vie. Si Jésus était au milieu de nous, il serait comme nous. Sauf qu'il ne pécherait pas. Utiliserait-il les smartphones? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il mangera ce que nous mangerons. Du foie gras, sans doute. Des caviar, oui. Il boira un peu de vin, ça je ne sais pas, parce que le vin de l'époque n'était pas aussi corché que ce que nous voyons aujourd'hui. Ici, là, c'est 11 degrés. Là. Quand tu prends 11 degrés, deux verres, là, ça y est, ça suffit. Mais à l'époque, le vin était mou, ça fait à peu près entre 2 et 3 degrés. Mais pour être vraiment saoul, il faut avoir soulevé les coudes plusieurs fois. C'est pour ça que Jésus a dit, ne vous attardez pas à côté du vin. Voilà. Mais il buvait Jésus quand même, hein. C'est pas de l'eau qu'il buvait. Il était venu s'identifier, vivre notre condition de vie, pour pouvoir nous aider valablement. Quelle est la leçon à tirer là? Que Dieu veut faire des choses nouvelles dans notre vie. Il le fait à partir du moment où il rencontre dans notre cœur la foi. Sans la foi, Dieu ne peut rien faire. Sans la foi, nul n'est agréable devant Dieu. Vivre selon la volonté révélée de Dieu devrait être le but suprême de notre vie. Il faut s'assurer que ce que nous faisons pour le Seigneur, nous ne le faisons pas que pour expédier les choses. Laissez-moi vous assurer que je ne viens pas vous prêcher la parole pour remplir un programme. Tant que je n'ai rien de la part de Dieu pour vous, je ne le fais pas. Donc, les jours qui passent, le Seigneur nous prépare. La parole n'est pas un accomplissement d'un rituel. Les paroles auxquelles nous sommes exposés nous préparent pour l'avènement du Seigneur. Et comme Dieu a choisi son Fils, la chose la plus excellente de son cœur, le plus parfait cadeau, Jésus, ben il faut déballer le cadeau. Vous avez sans doute eu des cadeaux là que les gens vous ont fait. Quand le cadeau est enveloppé, là, vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans. Pour comprendre si c'est un parfum. Les enfants m'ont offert du parfum. Et quand j'ai ouvert, j'ai vu la marque. Si je n'avais pas ouvert, je ne verrais pas la marque. Et Jésus, l'homme, n'est qu'une enveloppe. À l'intérieur de ça se trouve un grand cadeau de Dieu. Si on ne découvre pas Jésus de ce qui est à l'intérieur, on le voit comme un simple homme. Et beaucoup de gens s'arrêtent à son apparence, alors que c'est Dieu. Jésus n'a pas hésité pour nous. Il a tout donné. Et pour que nous donnerions à Jésus que les moitiés de ce que nous voulons. Pourquoi donnerions-nous à Jésus que les médiocres? Dieu, il est excellent. C'est le meilleur de nous-mêmes que nous devons donner à Dieu. Tout ce que nous ne faisons pas de notre mieux est insuffisant pour le Seigneur. Je le redis. Tout ce que nous faisons qui n'est pas meilleur pour nous, pour lui, est insuffisant. Parce qu'il a donné le meilleur de lui-même. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est l'image de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans les sacrifices anciens, on ne prend pas n'importe quel type d'agneau. On prend un agneau d'un an, sans défaut, pur, blanc. Le sacrificateur l'examine sur toutes les coutures pour voir s'il n'y a pas de défaut. Et c'est celui-là qu'on donne. Et Jésus est sans défaut. Dieu l'a donné pour nous. Pourquoi est-ce que nous, en retour, nous donnerons des choses médiocres pour le Seigneur? C'est la question. Je crois que ça va être le mot d'ordre de cette année-là. Donnons le meilleur de nous-mêmes pour Dieu. Moi, le Seigneur m'empêche parfois de dormir la nuit, là. À cause de ça. Et ne soyez pas étonnés que je vous casse les pieds avec ça, là. Donnons le meilleur de nous-mêmes, vous allez voir. Alors, souvenez-vous que la volonté de Dieu n'est pas simplement un ensemble de règles à suivre, mais une invitation à participer à son œuvre. Comme une invitation pour Zacharie à participer à l'œuvre de la grâce. Il doit annoncer Jean. Vous savez, Jean signifie grâce. Et Dieu a envoyé Jean. Normalement, on doit donner le nom des parents ou de la lignée, des Lévi. Mais c'est l'ange qui a dit le nom. Tu vas lui donner le nom de Jean. Grâce. Vous vivez sous la loi. La loi vous empêche de voir la gloire du Seigneur. Mais lui, là, la grâce, il va ouvrir le chemin à celui qui viendra. Il n'est pas dit de délier le couloir, mais Jean viendra annoncer la venue de Jésus-Christ, son cousin. Ils ont à peu près le même âge, mais de 6 mois de décalage. Dieu invite Zacharie à participer à l'œuvre de la restauration et surtout la jeune Marie qui a accepté de donner son corps comme une offrande à Dieu afin que Jésus soit né. Alors c'est un appel à aimer. Un appel à aimer Dieu et à aimer nous-mêmes, à aimer nos frères, à aimer nos sœurs. Et l'amour ne consiste pas à taire, à dire la vérité. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Ça les écorche comme une urticaire. Mais dites-le. Vous êtes défenseur de la vérité. Dites la vérité. La Bible a dit que si la vérité n'est pas dite à la loi et au témoignage, quand vous ne dites pas la vérité aux gens, il n'y aura pas de lumière. Mais si nous voulons que la lumière apparaisse dans la vie des gens, dites-leur la vérité. Et la vérité du Christ, avec amour bien sûr. Voilà l'invitation que Dieu nous fait ce matin. Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. Peut-être il y a des choses que vous n'avez pas vécues, une parcelle de la grâce de Dieu que vous n'avez pas vécue pendant longtemps. Mais Dieu va dire que voilà maintenant, une aube nouvelle va commencer pour vous. Si vous voulez vivre quelque chose de nouveau, ce qui n'est pas impossible à Dieu, mais c'est vous qui êtes le point cardinal de ce que Dieu veut faire. Dieu veut vous associer à son plan. Il veut que vous y participiez par votre cœur. Mais la volonté souveraine de Dieu aussi peut se passer de notre incrédulité. Parce que l'incrédulité, le doute de Zacharie n'a pas empêché Dieu de faire son travail. Lorsque nous doutons, c'est nous qui subissons. Ça n'empêche pas Dieu d'accomplir son plan. Mais ce serait heureux que nous ne doutions pas, que nous participions à l'œuvre du Seigneur. Voilà ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, à la fin de cette année, et qui va ouvrir cette année nouvelle, où nous aurons l'occasion de parler vers où le Seigneur nous conduit. Les temps vont être difficiles. Ça, c'est une dimension prophétique, là. N'attendez pas que le monde change. N'attendez pas que le gouvernement soit meilleur. On n'en aura pas. En revanche, sur le plan spirituel, nous avons un gouverneur, par excellence. Celui qui fait des promesses et accomplit. Et il en a les moyens de le faire. Il a dit que même si la terre ébranle, mon amour pour vous ne quittera pas. 365 fois, il a dit, ne craignez rien. C'est Jésus. Que votre regard ne suit pas le monde. N'écoutez pas tous ces bruits qui nous font peur. Écoutez la voix du Seigneur qui nous rassure. Et les temps qui vont arriver vont être un temps où tout va être bousculé. Ça, c'est moi qui vous le dis. Séisme en Thaïlande, séisme en Taïwan, bagarre à Pakistan, guerre en Ukraine, guerre en Israël, guerre au Soudan. On tue, parfois la presse n'en parle pas. Le monde est dans une situation d'ébullition. Il chancelle comme une cabane ivre sous le péché. Mais ça ne fait qu'à illustrer ce que Jésus nous a déjà prévenu. Et en Europe, on le connaîtra, sous peu. Ici, dans ce pays-là. Mais n'ayez pas peur, parce que le Seigneur est au contrôle. Je vous l'aurais dit encore, n'ayez pas peur. Si vous vous appelez, Dieu va vous faire encore trembler davantage. Ne craignez rien. La main du Seigneur est là et il nous protégera. Voilà, prions. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Et qui nous rappelle des vérités essentielles que nous sommes censés connaître. Je te prie, Seigneur Dieu, de donner à chacun de prendre place dans l'abri que tu représentes pour nous. Et je demande à toi de fortifier la foi de chacun, Seigneur. Nous choisissons de croire à l'accomplissement de tes promesses. S'il y en a chacune de tes promesses dans notre vie qui n'ont pas encore trouvé leur accomplissement, aujourd'hui, nous voulons collaborer avec toi. Nous voulons dire comme Marie, Seigneur, sers-toi de nous pour accomplir ta volonté. Nous résistons dans les temps qui courent à toute forme d'incrédulité qui nous éloigne de ta grâce et qui nous empêche d'avoir la paix. Et merci, Seigneur, pour toutes les nombreuses promesses qui vont trouver leur accomplissement dans notre vie. Nous te rendons grâce et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Nous disons Amen.